Aujourd'hui, la main de l'humanité a atteint un nouvel astéroïde. La sonde spatiale Hayabusa 2 a mené une opération de collecte de particules provenant de Ryugu.
La fierté de Yuichi Tsuda, chef de la mission Hayabusa 2, aujourd'hui à la une de la science. Il faut dire que la mission en question est ambitieuse, Héloïse.
Oui, Daniel, c'est un véritable travail d'orfèvre qu'a réalisé l'équipe scientifique. Alors, Hayabusa 2, c'est cette sonde japonaise qui était partie fin 2014 de la Terre en direction de l'astéroïde Ryugu, qui lui se trouve à tout de même plus de 300 millions de kilomètres de la Terre. Vendredi, elle a réussi à mener à bien une très difficile opération de prélèvement d'échantillons à la surface de l'astéroïde. On est au téléphone avec Patrick Michel, qui est membre de l'équipe scientifique de la mission. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors vous étiez dans la salle des opérations au moment où la sonde a touché la surface. On imagine que ça a dû être un moment d'émotion pour vous et pour vos collègues.
Ah oui, c'est des moments absolument extraordinaires. C'est fou. Enfin, j'ai du mal à m'en remettre, à revenir sur Terre. Et c'est vrai que c'est un message que je veux donner aux jeunes. Ayez le goût du défi, ayez le goût pour la connaissance, la curiosité. Ça vaut tous les antidépresseurs et les boissons énergisantes. Après ça, on est heureux à vie.
Ça s'entend que vous êtes encore heureux. Alors, en pratique, la sonde a lancé un projectile sur l'astéroïde. C'était le but de l'opération. Ça s'est passé très vite. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Alors, en fait, ça s'est passé très vite la récolte elle-même, mais ça a pris du temps pour atterrir sur cet astéroïde, puisque c'est un tout petit corps, 900 mètres de diamètre, donc il attire pas, il a pas d'attraction quasiment. Donc on a commencé la descente le 21 février, le jeudi matin, doucement. Alors il y a eu quelques petits problèmes au début, il a fallu corriger la trajectoire, enfin bon, il faut que je la fasse courte, mais ça a été assez difficile.
Il y a eu des frayeurs sur la descente, c'est ce que vous nous dites quand même.
Il y a eu des frayeurs. Ah ben ça c'était au début, j'ai même cru que ça allait être annulé. Parce qu'en fait, on avait un problème avec le logiciel de navigation et il a fallu que les ingénieurs japonais réécrivent une partie du logiciel, le renvoient, sachant que ça met quand même 19 minutes hein, pour envoyer des informations, on a 300 millions de kilomètres, ça a retardé de 5 heures en fait la descente, ce qui fait que on a dû accélérer la sonde pour qu'elle rattrape le temps perdu, donc c'est quand même des manips assez sensibles. On est à 300 millions de kilomètres, on n'en voit pas vraiment la sonde avec les yeux, bien sûr, donc c'est très délicat. Et puis finalement, on a réussi à descendre comme ça, et sachant qu'il fallait viser une petite zone de 6 mètres de large.
Oui.
Alors qu'au départ, la précision à l'atterrissage était de 100 mètres, et ce sont les Japonais qui, pendant les derniers mois, ont fait des efforts mais extraordinaires pour revoir complètement leur stratégie de descente et s'adapter à l'environnement, parce qu'en fait c'est un objet qui est plein de rochers, il y a des rochers de partout. Et ça, c'est quelque chose auquel on s'attendait pas, parce que comme il n'y a pas de gravité, on s'attend à ce qu'il y ait très peu de choses sur la surface. Et en fait, il y avait des rochers de partout. On a fini par trouver une petite zone, et c'est ça qu'on a visé et qu'on a atteint. Donc, le 22 février, la sonde s'est posée en quelques secondes. Elle a tiré un tout petit projectile dans un espèce de cône, et ce projectile a tapé, et on espère avoir récolté de la poussière par ce mécanisme-là, et elle est remontée ensuite.
C'est ça, vous dites, vous espérez, parce que vous n'êtes pas sûr à 100% qu'il y a vraiment eu des récoltes de poussière.
Voilà, il n'y a pas de balance dans la sonde, il n'y a pas non plus de caméra qui peut voir si on a eu de la poussière. Bon, simplement, on a quand même des images après la récolte qui sont en train d'arriver et qui nous donnent bon espoir qu'on a pris quelque chose. Mais c'est vrai qu'on ne le saura de manière sûre que lorsque la capsule qui contient les échantillons reviendra sur Terre en décembre 2020.
Pour qu'on ait une idée un peu précise du dispositif, il faut voir en tout cas les dessins, les vues d'artistes de cette opération. C'est une sorte de trompe, comme un petit moustique qui vient avec sa trompe au niveau de l'astéroïde et qui, à l'intérieur de la trompe, envoie un projectile. Et en fait, c'est la poussière soulevée par l'impact que la trompe a essayé d'aspirer, en quelque sorte.
Exactement. En fait, le problème qu'on a sur ces objets-là, c'est que comme ils ne nous attirent pas, on ne peut pas se poser de façon comme sur Terre. Par exemple, si moi je vais sur une plage et que je commence à creuser avec une pelle, la force quand je pousse est compensée par l'attraction de la Terre. Sur un astéroïde, si je creuse, ben je monte, parce que je suis pas attiré. Donc il faudrait que je m'accroche. Or, s'accrocher, ça veut dire concevoir quelque chose pour s'accrocher. Et comme avant d'aller sur cet astéroïde, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on veut éviter d'avoir à faire trop d'hypothèses pour devoir récolter, parce qu'on a une probabilité de se planter très grande. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle en anglais du touch and go. Ça veut dire je touche et je m'en vais. Donc, le plus rapidement possible, sans se poser, sans avoir à atterrir, on veut pouvoir récolter des échantillons. D'où cette idée d'avoir effectivement cette espèce de trompe comme un moustique, qui fait à peu près 70 cm de hauteur, et qui, une fois qu'elle touche le sol, ça déclenche un petit projectile qui part d'en haut, à 300 mètres par seconde, qui tape, et comme il n'y a pas de gravité, ben, quand on a tapé, les poussières dues au cratère qui est fait par ce petit projectile remontent dans ce cône. Mais simplement, évidemment, si la surface est très molle, comme de la pâte à modeler, mon projectile va s'enfoncer, il n'y a rien qui va sortir. Ouais, donc il y a toujours une petite incertitude, parce que on ne sait pas ce sur quoi on tape.
Ouais, vraiment, il y a une part d'aléatoire. Il y a une part d'aléatoire. Héloïse.
Et pourquoi vous voulez absolument avoir ces échantillons d'astéroïdes? Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, scientifiques, parce qu'on ne sait vraiment pas comment ces astéroïdes sont constitués, de quoi ils sont faits.
Oui, alors là, on a choisi un objet qui est potentiellement riche en carbone et qui est ce qu'on appelle primitif, c'est-à-dire qu'on pense qu'il a gardé la mémoire de la composition initiale du système solaire. Donc notre idée, c'est d'essayer de remonter le temps, de retracer cette histoire du système solaire depuis sa formation jusqu'à la formation des planètes et voire même jusqu'à l'émergence de la vie sur Terre. Alors maintenant, on est surpeuplé, mais au début, la Terre, elle a commencé avec rien. Il y avait que de la matière et on pense que ce sont les astéroïdes qui ont pu apporter l'eau et les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Mais ça, ce sont des scénarios théoriques et on voudrait pouvoir le vérifier en ramenant cette matière précieuse qui contient peut-être cette information-là. Donc en fait, c'est remonter le temps jusqu'à nos origines.
Et est-ce qu'il y a d'autres opérations prévues pour Hayabusa 2 ou elle va rentrer sagement à la maison maintenant?
Ah ben écoutez, on n'est pas fou pour rien, hein, il faut aller à fond. Donc on a commencé avec ça, ce qui était une... Alors ce que je voudrais dire, c'est que ce sont des opérations extrêmement compliquées. Et on s'en rend compte quand on est dans la salle d'opération. Sinon, on a l'impression, comme tout s'est bien passé, que c'est facile, que c'est érodé. Non, c'est extrêmement compliqué. Le spatial, c'est compliqué. Donc pour moi, c'est un miracle ce qui s'est passé. Et pourtant, on va pas s'arrêter là, puisque dans un mois, on va... Alors on parlait d'un projectile là, mais c'était un petit projectile de 5 grammes hein, qu'on a envoyé. Cette fois-ci, on va déployer une petite boîte hors de la sonde, et la sonde va aller se mettre derrière l'astéroïde pour se protéger, et cette boîte va exploser pour donner de l'énergie cinétique, donc de la vitesse, à un projectile, cette fois-ci de 2 kg, qui va taper à 7200 km/h à la surface de l'astéroïde pour produire un cratère. Et ce qu'on voudrait, c'est déjà comprendre cette physique de la cratérisation, et donc vérifier nos estimations de taille de cratère, mais ensuite aller à l'intérieur du cratère ou à proximité pour récolter un autre échantillon, ce qui nous permettrait d'avoir un échantillon de la surface, le premier qu'on a pris vendredi, et un échantillon de la sous-surface pour comparer l'effet de la radiation solaire, etc. Eh bien, ça paraît de la science-fiction, mais c'est vraiment, on va vraiment faire ça.
C'est formidable. On sent tout votre enthousiasme et on vous souhaite effectivement que la deuxième étape marche également. Merci à vous, Patrick Michel. On vous souhaite donc bonne chance pour la suite. On aura l'occasion certainement de reprendre des nouvelles de cette mission assez extraordinaire. Et merci Héloïse, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, met en garde sur le risque de pénurie alimentaire. Dans un rapport, elle présente des preuves de plus en plus tangibles que la biodiversité qui sous-tend nos systèmes alimentaires s'appauvrit, menaçant gravement l'avenir de nos moyens de subsistance, de notre santé et de notre environnement. Une fois perdue, prévient le rapport, la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture ne pourra plus être récupérée. Des orques et des belugas sèment la zizanie au plus haut niveau de l'État russe. La diffusion de photographies de dizaines de ces animaux entassés dans des petits bassins à Nakhodka, une ville de l'extrême-orient russe, a provoqué une vague de protestations dans le pays. Ces mammifères marins étaient destinés à des aquariums et parcs à thème au-delà des frontières russes. La Russie est le seul pays où ils peuvent être capturés à des fins dites pédagogiques, une faille juridique utilisée par les trafiquants. Vladimir Poutine a ordonné au parquet de vérifier la légalité de la captivité des cétacés et a sommé les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture, en désaccord sur le sort à réserver aux animaux, de trouver un terrain d'entente avant le 1er mars. Quel temps fait-il sur Mars? Il y a peu de chances que vous vous posiez la question le matin au moment de vous habiller. Mais sachez pourtant que l'information est à portée de main. La sonde InSight prend des mesures météorologiques quotidiennes sur la surface de la planète rouge. Des bulletins météo disponibles sur le site dédié de la NASA rendent compte de la température de l'air, la vitesse du vent ainsi que de la pression atmosphérique. Sachez donc qu'il a fait frais la semaine dernière sur Mars. Les températures sont tombées à moins 95 degrés sans dépasser un petit moins 12 degrés.